Je vais commencer par introduire mon propos en évidemment vous citant John Bowlby. Hein, la question, peut-on parler de l'attachement sans citer le fondateur des théories de l'attachement ? John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais, a travaillé pendant la seconde moitié du XXe siècle sur les problématiques de séparation, de deuil et de perte, notamment dans le cadre de situations de séparation précoce. Il va étudier les premiers liens entre la mère et son enfant et va s'intéresser aux différents remaniements psychiques qui résultent de ces formes de séparation précoce et construira peu à peu la théorie de l'attachement. John Bowlby va très vite s'opposer à la théorie psychanalytique classique et plus particulièrement à la théorie des pulsions de Freud, selon laquelle l'attachement ne serait pour lui qu'un besoin secondaire. John Bowlby, s'inspirant des travaux de Spitz et sa notion d'hospitalisme de 1947 et des travaux d'Arlo sur la privation maternelle chez les macaques rhésus de 1958, et puis bien sûr de beaucoup d'autres chercheurs et auteurs, publie en 1969 en trois volumes « Attachement et perte ». L'idée centrale est finalement que l'attachement se révèle comme étant primordial, non seulement pour l'évolution, mais aussi pour la construction psychique de l'enfant. En effet, pour John Bowlby, la figure d'attachement primaire qui va être identifiée par l'enfant dans son environnement premier est celle qui va lui permettre de prendre soin de lui de façon sécure et surtout de façon continue, et qui va lui permettre ainsi d'explorer le monde qui l'entoure en mobilisant psychiquement ce lien comme base de sécurité interne. Donc cette notion de base de sécurité interne sera développée par d'autres chercheurs, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors se pose la question finalement, comment et pourquoi l'enfant va-t-il explorer ou non le monde qui l'entoure ? John Bowlby répond en partie à cette question avec sa notion de fonction adaptative. Pour John Bowlby, l'enfant a besoin, il s'agit d'un besoin, de s'attacher au donneur de soins qu'il va identifier dans son environnement. Pour lui, ce besoin de protection se révèle comme étant nécessaire, comme tout autre besoin finalement. Il expliquera dans ses travaux qu'il s'agit d'une condition nécessaire pour que l'enfant puisse explorer, mais aussi et surtout s'adapter à son environnement. Les théories de l'attachement apparaissent aujourd'hui donc comme un socle référentiel, à mon sens, supplémentaire à la pensée psychanalytique, et surtout inévitable pour penser d'une façon plus globale et plus générale le développement psychique de l'enfant et surtout ses avatars. Voilà, je vais vous présenter brièvement deux notions développées par John Bowlby et qui sont plutôt centrales dans son œuvre. Tout d'abord, la fonction d'availability. Donc, en effet, dans le cadre d'un attachement sécure, l'enfant va se trouver dans une position et dans une attente confiante quant au fait que la figure d'attachement primaire qu'il va identifier dans son environnement sera disponible pour répondre à sa détresse et à ses besoins, et ce, à partir d'une expérience passée suffisamment bonne. Par exemple, le comportement de la mère, mais plus généralement de la figure d'attachement que l'enfant va identifier, pas forcément la mère d'ailleurs, se révèle être important. A-t-elle accepté, autorisé, de quelle façon, que l'enfant s'agrippe à elle, la suive, ou bien au contraire, a-t-elle refusé, pour reprendre un petit peu la pensée winnicottienne. La seconde notion développée par John Bowlby est la notion de caregiving, caregiver. À travers ces termes, John Bowlby, et notamment à travers l'observation des bébés, va définir la capacité de la figure d'attachement à donner du soin à l'enfant, aussi bien au niveau physique, mais aussi et surtout au niveau psychique et affectif, afin que l'enfant acquiert lui-même la représentation de ce qu'est finalement prendre soin, et acquiert, ou pas d'ailleurs, la notion de sécurité de base. Winnicott, pour reprendre un petit peu ses travaux développés en 1969 autour de la préoccupation maternelle primaire, va aussi insister sur l'importance des fonctions de handling et de holding, finalement, au-delà des soins qui sont prodigués à l'enfant, il va insister sur la façon dont l'objet primaire manipule physiquement le bébé, le tient, mais aussi le contient. Marie Ainsworth, qui est psychologue du développement, a repris les travaux de John Bowlby concernant les théories de l'attachement. Et c'est quant à elle particulièrement intéressée finalement aux différentes formes, aux différents degrés, on pourrait dire, d'attachement, notamment dans leur forme insécure. Elle va mettre en place une situation expérimentale d'observation, The Strange Situation, qui va viser à recréer en laboratoire des situations de séparation afin de pouvoir identifier le style d'attachement de l'enfant. Donc c'est une vidéo que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. L'idée finalement de cette expérience est plutôt de provoquer un léger stress chez un enfant en impliquant volontairement une situation de séparation et de retrouvailles avec la mère en présence d'un adulte non familier. Il va s'agir ainsi d'évaluer finalement la qualité du lien d'attachement et surtout la qualité du sentiment de sécurité chez l'enfant. Ainsi, on va pouvoir identifier 4 styles d'attachement à l'issue de cette expérience. Tout d'abord, l'attachement sécure. L'enfant va se manifester au moment de la séparation et va rechercher le contact donc avec le caregiver, la figure de soin. Donc, il va rechercher un contact à son retour et puis il va pouvoir repartir tranquillement explorer la pièce et l'environnement qui l'entoure. Il va aussi également très bien différencier l'étranger de sa mère, qu'il investit alors comme base de sécurité interne suffisamment fiable et surtout suffisamment disponible et sécure pour pouvoir explorer l'environnement. Dans l'attachement insécure, évitant ou encore détaché, l'enfant semble insensible, également au départ, mais aussi au retour du parent. En effet, l'enfant manifeste peu de réactions et ne compte pas sur sa mère pour le sécuriser ou pour le réconforter. Le troisième style d'attachement mis en avant est l'attachement insécure ambivalent ou encore dit préoccupé. La réaction de l'enfant est alors qualifiée d'ambivalente parce que l'enfant présente des signes de recherche de contact auprès de sa mère, mais aussitôt le contact rétabli, l'enfant va chercher à s'en défendre. Quelques années plus tard, d'autres chercheurs mettront en avant l'attachement insécure désorganisé ou encore désorienté, où l'enfant va présenter des signes de désorganisation interne assez inquiétants. Voilà, donc je voulais revenir sur l'importance finalement de ces théories de l'attachement dans le cadre de notre objet de recherche, donc dans les douleurs inexpliquées de l'enfant et l'adolescent. Finalement, se pose la question, comment penser la place de ces théories ? L'attachement insécure d'un enfant l'amènerait-il à vivre déjà finalement une forme d'expérience douloureuse ? On pourrait se poser la question finalement si on peut parler d'une douleur de l'attachement, d'un attachement douloureux ou d'une douleur du lien primaire, tout simplement pour reprendre un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure à travers la présentation de David Le Breton. Ces théories de l'attachement me semblent nous ramener finalement à la question du lien primaire. Une question essentielle pour pouvoir penser la clinique à laquelle nous sommes confrontés. L'environnement réel ou fantasmatique de l'enfant est-il suffisamment bon ? Que se passe-t-il quand l'enfant se trouve séparé pour telle ou telle raison du donneur de soins ? Que se passe-t-il si le donneur de soins, donc la figure d'attachement, ne peut offrir à l'enfant les réponses à ses besoins, notamment à travers un soin continu, étayant et sécure ? Nous pourrions approfondir notre réflexion en se posant certaines questions. Comment penser alors ces formes de rupture de lien précoce ou ces formes d'attachement insécure ? Quelles seraient leurs caractéristiques ? Quel impact aurait-il dans la construction physique mais aussi psychique du sujet ? Comment pourrions-nous repenser finalement aussi, peut-être, et j'y reviendrai un peu par la suite, l'histoire du patient douloureux chronique, dans ses modalités de lien aux autres, dans ses modalités de lien à son environnement. Dans le même esprit, et pour aller encore un petit peu plus loin dans la réflexion, nous pourrions nous demander quelles peuvent être les traces infraverbales aussi laissées par l'expérience d'attachement insécure. et comment ces traces finalement pourraient-elles se réactiver peut-être ultérieurement dans la construction et dans l'histoire du sujet. Voilà, donc une question qu'on s'est posée finalement, c'est l'attachement insécure au donneur de soins, à la figure d'attachement principale identifiée par l'enfant pendant la petite enfance, pourrait-il déjà finalement symboliser un équivalent d'expérience douloureuse, quelque chose qui serait douloureux dans la relation et que le corps pourrait aussi justement garder en mémoire, de par la qualité du lien finalement, de par la qualité de la relation et aussi de par la qualité des réponses apportées par l'objet primaire. Joyce McDougall, qui a beaucoup travaillé sur ces problématiques-là, nous parlait de la communication primitive hein, et de l'importance des échanges finalement entre l'enfant et le parent, la mère ou le père, peu importe à laquelle il est confronté dans son environnement. Nous pourrions nous poser la question, quelles inscriptions, et pour reprendre un petit peu ce qui a été évoqué ce matin avec l'apport des neurosciences, quelles inscriptions sensorimotrices pourraient être laissées par ces expériences d'attachement que l'on pourrait qualifier d'insécures, peut-être même de douloureux. Une autre question, finalement, les expériences actuelles du sujet sont-elles teintées par ce passé douloureux? Et sous quelle forme? Comment? Pourrait-on retrouver quelque chose de l'ordre d'une répétition peut-être traumatique, hein, en référence à certains travaux de recherche de Ferenczi, par exemple, sur la question du micro-trauma dans la relation? Voilà, je vais te laisser la parole.
Donc c'est un entretien semi-directif où on utilise 63 affirmations que l'on va coder ensuite. C'est un entretien enregistré qui est dispensé par un psychologue. Il intervient en fait à la suite de ce qu'a pu présenter mon collègue Michael, à la suite des épreuves projectives et du WISC. Et donc on va le coder selon 4 modalités d'attachement, attachement sécure et 3 types d'attachement insécure. Et moi, je vais vous présenter rapidement le cas de Soren, un enfant que j'ai rencontré. Soren a 12 ans, il est adressé au centre pour des douleurs abdominales médicalement inexpliquées qu'il a depuis un an. Voilà, j'ai à rectifier, c'est depuis un an et non un an et demi. La mère est tout le temps présente aux consultations. Le père est absent de la vie de Soren, il est parti quand la maman était enceinte. Il n'a pas de frères et sœurs. Il est en 5e, il a un très bon niveau scolaire, il a un QI assez élevé. Il a une apparence très frêle, un visage angélique. Il semble fragile, avec une volonté de me faire comprendre là où il en est. Il a beaucoup d'hésitations, de longs silences, d'émotions et de pleurs. Et quand je l'interroge sur les séparations, voilà ce qu'il peut me dire. Lors des séparations, quand je vais chez mes grands-parents ou quand je reviens, j'y vais en vacances. Quand j'y vais, pour me séparer de ma maman, j'ai du mal. Et pareil après, pour me séparer de mes grands-parents. Il se met à pleurer. C'est dur de me séparer, en colonie aussi. Quand je vais chez ma nounou, ça fait longtemps maintenant, je rappelle qu'il a 12 ans, mais c'est dur aussi. L'une des dernières questions, c'est est-ce que parfois tu as l'impression que ta mère ne t'aime pas vraiment? Non. Si parfois, quand elle se met en colère. C'est là où on se rend compte de la fragilité du lien. Et la toute dernière question, oui, je vois que ça fait réagir, hein, cette question. Moi aussi, au début, j'ai été assez perplexe. Et puis, finalement, les enfants y répondent volontiers. Si tu avais 3 vœux même magiques, qu'est-ce que ce serait? Avoir un beau métier, être ingénieur. Avoir toujours ma mère avec moi. Je lui demande s'il a un autre vœu, même s'il est magique. Et non, il n'en a pas d'autre. Donc, on a comparé les résultats du type d'attachement de notre population, celle de Paris, Saint-Étienne et Lyon, avec un groupe contrôle. Et voilà ce qu'on peut retrouver. On voit très clairement, du coup, que le groupe contrôle a un attachement sécure et mentalisé, et le groupe douloureux, un attachement désactivé, désorganisé ou hyperactivé. Je vais passer la parole à ma collègue qui va reprendre notre propos.
Donc, dans la continuité, finalement, de ce que Jessica a présenté pour cet enfant, on pourrait se demander finalement quelles sont, et pour reprendre un petit peu le lien avec les théories de l'attachement, on pourrait se poser la question quelles sont finalement les stratégies d'adaptation de Soren à ce qui l'entoure De quelle façon et avec quelles difficultés il tente finalement de s'adapter à son environnement et d'explorer, de réagir en tout cas à ce qui se passe autour de lui. Soren, qui a plutôt un style d'attachement du coup insécure à sa figure d'attachement, en l'occurrence sa mère, nous expose ses difficultés et surtout nous parle de sa souffrance à travers ses symptômes. Hein, donc ça nous renvoie à la question finalement comment entendre sa douleur et ses mots MAUX, MOTS de ventre médicalement inexpliqués. De quelle douleur finalement nous parle-t-il ? Alors là, du coup, je vais introduire rapidement le lien avec la question du transgénérationnel. Moi, j'ai pu recevoir donc la maman de cet enfant qui présentait aussi finalement un style d'attachement insécure et notamment préoccupé. Donc la question, en fait, du protocole PEDOUL aussi, et en tout cas une partie de notre travail, consiste à utiliser un autre test qui s'appelle le CAMIR, qui est un questionnaire d'attachement pour adultes auprès des parents d'enfants douloureux chroniques médicalement inexpliqués. L'idée, c'est d'essayer d'étudier, en tout cas de s'intéresser à l'aspect transgénérationnel des processus d'attachement. Donc c'est encore une autre partie de notre travail, mais qui a toute sa place dans cette étude. L'idée, finalement, donc, est de savoir si on retrouve ou pas des formes d'attachement insécures chez les parents, et plutôt quelle particularité par rapport à ces attachements insécures. Voilà, je vais être assez prudente par rapport aux premiers résultats qu'on a pu obtenir. Alors, il y a quand même pas mal de différences entre les données recueillies sur le centre de Paris et puis les données recueillies sur le centre de Saint-Étienne et de Lyon. Hein, les résultats de Paris montrent plutôt de façon significative un attachement sécure du côté des papas, tandis que chez les mamans, l'attachement insécure est plutôt mis en avant hein, par rapport à leur propre lien d'attachement. On pourrait même parler d'un attachement insécure préoccupé. En ce qui concerne les centres de Lyon et Saint-Étienne, les données recueillies sont beaucoup plus hétérogènes. Effectivement, peu de pères ont été présents lors des passations du CAMIR, ce qui est aussi riche et en tout cas porteur de sens par rapport à ce qu'on cherche à comprendre hein, dans ce qui se passe dans ces familles. Voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas prétendre qu'il y ait une différence significative chez les mères entre un attachement sécure et insécure. Mais en tout cas, voilà, on poursuit nos investigations et notre réflexion. Voilà, pour conclure, je vais juste refaire un petit parallèle avec nos prises en charge et la question, en tout cas, que je me suis posée en travaillant aujourd'hui sur cette journée. Finalement, est-ce qu'on pourrait aussi repenser nos prises en charge sous l'angle de l'attachement hein ? À l'issue de notre travail quotidien auprès des patients douloureux chroniques, que ce soit des douleurs chroniques expliquées ou médicalement expliquées, nous sommes finalement sans cesse amenés à nous repenser nous-mêmes dans nos modalités de prise en charge, et peut-être aujourd'hui, en tout cas à mon avis, justement, encore plus sous l'angle des théories de l'attachement. On pourrait se demander finalement comment nos patients douloureux chroniques tentent-ils de nous raconter ou nous faire vivre dans la relation thérapeutique la façon dont autrefois les objets se sont historiquement accordés, rencontrés, liés ou au contraire séparés ? À quoi finalement nos patients nous confrontent-ils dans la relation thérapeutique ? Comment entrent-ils en lien avec nous ? Avec quelles difficultés ? Comment se crée ou se défait parfois ce lien thérapeutique ? Hein, parfois les patients nous échappent assez violemment, assez brutalement. Et dès lors, que se rejouent-ils et que viennent-ils nous raconter, mettre en scène ? Comment pourrions-nous penser ces modalités relationnelles ? Aussi, une question, devons-nous aujourd'hui repenser finalement nos modalités de présence, de disponibilité, notre écoute, peut-être aussi la qualité de nos réponses, hein, afin d'accompagner de façon suffisamment sécure et continue nos patients douloureux dans ce qu'ils peuvent vivre et traverser dans l'actuel de leur douleur, en tout cas. Voilà, pour conclure, je vais vous citer Blaise Pierre Imbert. À l'image de l'astronaute qui explore les régions les plus inhospitalières de l'univers, mais dont la survie dépend du maintien d'un lien avec sa base, la théorie de l'attachement illustre cette notion selon laquelle être soi n'est pas être soi sans lien. Voilà. Je vous remercie de votre attention.